Voilà, je vais essayer de prendre pareil, hein, une petite vingtaine de minutes d'intervention et pas plus, afin que l'écoute soit pas trop longue et fastidieuse et qu'on ait derrière éventuellement la possibilité de discuter un petit peu plus et puis de basculer sur les derniers temps de la journée. Je vais aborder un autre aspect dans les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire et la manière dont on porte le regard sur ces situations, c'est la place des alliances éducatives aussi dans cette entreprise qui est la lutte contre le décrochage scolaire. Hein, donc je prendrai pour point de départ cette roue du décrochage. Ne lisez pas 2013, mais 2014. Hein, il y a une faute de frappe. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà vu. Elle me sert simplement à illustrer une idée. C'est le caractère multifactoriel du décrochage scolaire. On l'a rapidement souligné ce matin, on va pas y revenir longuement ici, mais je sais pas si c'est lisible du fond. Voilà, la petite légende, dès la sixième, Paul rencontre des difficultés scolaires, ses conditions économiques et sociales rendent le travail à la maison difficile à réaliser. Orienté en CAP alors qu'il voulait faire une première L, il décroche dès la première année. Ça a sûrement quelque chose un petit peu caricatural quand on le dit comme ça, c'est un peu marqué, mais en même temps ça correspond quand même à une certaine réalité, c'est-à-dire que c'est pas un élément qui va faire basculer dans le décrochage, mais c'est un faisceau de facteurs qui vont participer de ce processus et qui petit à petit vont amener un élève à se désintéresser et progressivement à abandonner son cursus scolaire. Alors il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est de se dire qu'on a des facteurs scolaires et des facteurs extrascolaires et que on a des institutions respectives qui peuvent intervenir sur ces facteurs et que si l'école a le devoir de considérer les élèves dans leur diversité, dans leur singularité, si l'enseignant dans la classe a le devoir d'apprendre les caractéristiques singulières des élèves, pour autant il ne peut pas avoir un impact et une influence sur chacune d'elles de la même manière. Et donc il y a une première manière de voir les choses qui est de se dire ben, centrons-nous à l'école sur ce qui est en notre pouvoir à l'école. Cette première vision, elle est pragmatique, elle est réaliste, elle présente une certaine justesse parce que on n'a pas la faculté à soigner tous les maux et toutes les difficultés inhérentes au décrochage dans l'environnement scolaire. Hein, le décrochage, il n'a de scolaire que le nom et l'aspect visible, mais il tient à beaucoup d'autres facteurs. De la même manière, on pourrait tenir un peu le même raisonnement sur les facteurs extrascolaires avec un certain nombre de partenaires de l'action éducative qui prendraient le relais ou qui accompagneraient, qui aideraient, qui interviendraient en parallèle pour agir sur d'autres facteurs. Il y a une deuxième manière aussi de considérer cette problématique, c'est d'essayer de rompre cette frontière entre les deux et par le biais d'alliances éducatives entre institutions scolaires et les partenaires éducatifs de travailler sur des dispositifs qui permettraient de faire rentrer un peu d'autres personnes à l'école ou d'externaliser la problématique du décrochage scolaire en dehors des murs de l'école. Voilà. Donc c'est l'enjeu qui est défendu par ces alliances éducatives. Alors, il n'y en a pas une qui est forcément meilleure que l'autre. Hein. Simplement, aujourd'hui, on s'est beaucoup posé la question depuis le début de la matinée sur ce qui se passe dans l'école. Et donc là, l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut travailler un petit peu avec d'autres. Alors, je vous propose simplement ces dispositifs collectifs, voilà, on voit les différentes sphères, que ce soit sociale, familiale, insertion socio-professionnelle, ces différentes problématiques, des dispositifs qui se jouent à plusieurs échelles, dans l'intimité de la relation enseignant-élève, à l'échelle un petit peu plus grande d'une équipe pédagogique, de dispositifs au niveau de l'établissement, intégrant des partenaires éducatifs ou non. C'est-à-dire qu'on peut jouer un petit peu sur tous ces paramètres, et à chaque fois qu'on va regarder une situation, elle va se trouver quelque part dans ce petit schéma, on va pouvoir la localiser quelque part. On n'a pas non plus dans cette approche centrée sur l'activité pour ambition d'appréhender l'intégralité de ces facteurs-là. Simplement, on a pour ambition de se centrer sur ce qui apparaît significatif à un moment pour les acteurs, pour les intervenants, de manière à accompagner, à aider, à soutenir ce changement dans les pratiques professionnelles. Alors, je vous propose un exemple de dispositif sur lequel j'ai travaillé il y a 2 ans ou 3 ans sur un établissement scolaire. Encore une fois, c'est un dispositif qui est commun, qui est d'une banalité extrêmement importante finalement, hein, qui a rien de révolutionnaire dans les métiers de l'éducation. Simplement, il nous sert aussi de support pour mettre en évidence des problématiques professionnelles et essayer de travailler sur la manière dont ces professionnels peuvent avancer dans leur pratique pour pouvoir exploiter au mieux les possibilités offertes par les dispositifs. Alors ce dispositif, ils l'ont appelé le point élève, c'est une réunion hebdomadaire qui réunit plusieurs acteurs du monde de l'éducation et qui a 2 ambitions, hein, repérer les élèves en situation de potentiel décrochage. On est au collège, donc on est confronté à des situations d'absentéisme, aux prémices du décrochage, on est engagé dans ce processus-là, sans pour autant que ce soit des élèves qui rentrent dans les statistiques officielles. Et puis la deuxième ambition de ce dispositif, c'est de proposer une aide adaptée aux élèves en fonction des spécificités de leur situation. Alors on retrouve autour de la table des partenaires et des personnels de l'école, c'est-à-dire qu'on a des intervenants du quotidien de l'établissement scolaire, le conseiller principal d'éducation, ou les, puisqu'ils étaient 2, l'adjoint au chef d'établissement. On a des personnels qui sont pas tous les jours dans les murs de l'établissement, mais qui viennent régulièrement, le conseiller d'orientation psychologue, l'assistante sociale. On a d'autres partenaires aussi, des éducateurs, d'associations locales qui participent à ces dispositifs. Et donc, de manière hebdomadaire, ces personnes se réunissent pendant 1h30 à peu près pour pouvoir passer en revue je vous remets juste les personnes, mais voilà, passer en revue un peu les cas d'élèves pour lesquels se posent des questions. Voilà, je vous l'ai dit, ça suscite quelques... ça suscite quelques échanges et quelques discussions. Ça a rien de très très novateur non plus. C'est un dispositif parmi d'autres. Sans doute que vous avez rencontré des choses qui se font plus ou moins proches de ça dans des établissements que vous avez pu rencontrer. Derrière ça, quelles sont les problématiques qui sont soulevées? Alors. Les principales caractéristiques, c'est la capacité à pouvoir réagir au fil de l'eau, c'est-à-dire que de manière hebdomadaire, ça permet d'opérer une veille assez réactive quant aux élèves qui présenteraient ces difficultés de suivi de scolarité et de leur apporter des réponses. Deuxième caractéristique forte, c'est la possibilité de sortir de la classe ou de l'école. C'est-à-dire que du fait de la présence dans le dispositif de personnel extérieur à l'école, les moyens qui sont envisagés pour pouvoir remédier ou pour pouvoir endiguer le processus de décrochage scolaire, c'est aussi des dispositifs qui vont se passer en dehors de l'école, sur le temps périscolaire, voire même on va parfois un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on propose à l'élève de sortir de l'école pendant une durée déterminée, d'une semaine, 2 semaines, pour faire autre chose et pour ensuite mieux revenir à l'école. Donc on a ces possibilités-là. Évidemment, ça aussi, ça fait réagir. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir si c'est une bonne chose de faire sortir les élèves de l'école ou pas, si ça offre des possibilités. Ce sont des choix qui sont faits. Mais en tout cas, on retrouve, comme l'évoquait Sylvie tout à l'heure, la question de l'espace et du temps. Là, ici, il y a une volonté de dépasser cette difficulté pour pouvoir... tester pour pouvoir mettre à l'épreuve des dispositifs qui essaient de s'affranchir de ces contraintes-là. Alors, En termes de réflexion pour ces pistes de développement professionnel, trois grandes problématiques finalement apparaissent quand on échange avec les acteurs de ce dispositif-là, sur lesquels il leur importe de travailler pour pouvoir mener à bien ces missions. Le premier, c'est l'idée de décisions qui sont tacites et variées. C'est pas la même rose, hein. C'est une autre, même si c'est le même prénom de substitution, mais simplement c'est un prénom très court qui commence par R et féminin, et donc ça nous permet de repérer ça. Les collègues qui participent nous disent, voilà, la première, Sophie, assistante sociale scolaire, il y a bien un accord de tout le monde, on est tous d'accord, la décision est prise ensemble, ce qui est noté dans le cahier, c'est-à-dire qu'il y a un document qui fait trace des décisions qui sont prises, c'est la décision prise ensemble, mais tout le monde ne donne pas forcément son avis, tout le monde n'intervient pas sur tous les cas. Autrement dit, là, ici, il y a une tension entre d'un côté des décisions qui sont considérées comme étant partagées par tout le monde et en même temps des décisions dans lesquelles tout le monde n'intervient pas, voire tout le monde ne donne pas son avis. C'est-à-dire qu'on est bien dans une décision qui est tacite et qui pour autant est revendiquée par les acteurs comme étant partagée et commune. Si je poursuis un petit peu, alors les éléments que j'ai mis dans le cadre en dessous en bleu nous permettent d'expliquer un petit peu ça, hein, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont soumises à des statuts différents entre le devoir de réserve ou le secret professionnel, c'est-à-dire qu'on a le droit ou pas le droit de partager des informations. On essaie de dépasser ces difficultés-là par le maintien d'un huis clos pour le dispositif. On procède à un relevé de décision et non pas à un compte-rendu. C'est-à-dire que n'est communiqué à l'extérieur du dispositif que les décisions qui sont prises et pas la nature des échanges qui ont conduit à prendre ces décisions, de manière à rendre compatible pour un certain nombre d'intervenants, l'assistante sociale, l'infirmière, la délivrance d'informations qui relèvent d'un secret professionnel et pour autant qui peuvent servir l'ensemble du groupe pour pouvoir décider ou statuer sur des dispositifs qui apparaîtraient opportuns pour les élèves. Donc, cette première problématique, hein, de recherche d'un consentement collectif, elle se heurte aussi, malgré la fréquence du dispositif, au fait que le dispositif, en étant mis en place qu'une fois par semaine, ne répond pas forcément à des problématiques urgentes. Et la CPE nous dit, ben, j'attends pas le point élève pour mettre en place les choses, j'anticipe, je ne peux pas attendre le point élève, dans le blabla, autrement dit, c'est-à-dire que ces décisions tacites, elles dépassent même la réunion et certains acteurs mettent en place des remédiations pour accompagner les élèves, pour ensuite proposer les cas à la discussion dans le moment de rencontre collectif et faire valider finalement par le collectif ce qu'ils ont mis en place de manière singulière. Alors, il n'y a pas de volonté de tricher ou de malversation, mais il y a une volonté de la part des acteurs là ici de répondre à une urgence ou à une temporalité qui n'est pas compatible avec la fréquence hebdomadaire. Ils se défendent de ça aussi en mettant en avant un esprit partagé, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a une espèce de règlement interne qui a évolué et qui crée l'unité de ce collectif. Donc il y a une histoire qui se construit progressivement, qui fait que petit à petit, les décisions sont partagées, même si tout le monde n'y prend pas part. Ce qui est impossible dans une temporalité courte. Hein, c'est-à-dire que ça implique de travailler un moment ensemble pour construire cette culture commune avant de pouvoir voir apparaître ce type de mécanisme de régulation. La deuxième idée, c'est celle d'une réélaboration des règles de métier. Donc, une deuxième idée, c'est faire autre chose que son métier. C'est-à-dire que si vous avez repéré un peu les différents intervenants, on a des personnels de l'école, de l'éducation nationale, on a des personnels qui sont là par intermittence dans l'établissement, et puis après on a des acteurs qui sont aussi complètement étrangers à l'école, que peuvent être les éducateurs d'associations de quartier, et qui pour autant participent. Parfois même activement, parfois même de manière très très présente aux décisions qui sont prises et aux dispositifs qu'on va proposer, que ce soit des dispositifs au sein de l'école ou que ce soit des dispositifs en dehors de l'école. Au-delà de cette apparente connivence, il y a des enjeux aussi d'un second ordre qui se jouent, comme en témoignent les verbatims qui sont retranscrits ici d'hommes qui est aussi CPE dans l'établissement. Donc il faut que les éducateurs se rendent compte que l'on a des obligations. Autrement dit, le caractère bienveillant versus autorité se prend forme ici. Et puis il poursuit en disant, le point élève sert aussi à faire comprendre aux partenaires les missions de chacun. C'est vraiment un moment d'échange. Il faut une ouverture d'esprit pour que chacun connaisse le boulot de l'autre. C'est important de décloisonner les pratiques. Alors j'ai pris l'extrait là ici du CPE. J'aurais pu prendre l'extrait d'un personnel qui n'est pas au quotidien dans l'établissement scolaire ou d'un éducateur. C'est-à-dire que ce qu'on retiendra de cette idée, c'est surtout la deuxième partie de la phrase, il faut une ouverture d'esprit, que chacun connaisse le travail de l'autre. Et la construction de cette culture commune, elle passe effectivement par le décloisonnement des frontières et des prérogatives professionnelles de chacun. C'est-à-dire que si, de par leur fonction, de par leur statut, de par leur métier au quotidien, chacun des intervenants du dispositif est engagé dans des formes de pratiques professionnelles, dans ce dispositif, il y a une espèce de remise à plat de ces statuts et de ces dispositifs, notamment par le choix de ne pas avoir de pouvoir décisionnel, hein, c'est-à-dire que le chef d'établissement n'est pas présent, et donc les acteurs de cette réunion hebdomadaire se limitent à faire une proposition qui devra ensuite être validé. C'est-à-dire que personne dans le dispositif n'a autorité pour pouvoir imposer, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir opérationnaliser les décisions qui seraient prises. Et donc ça, c'est un deuxième mécanisme de régulation et de fonctionnement de ces dispositifs dans lesquels on travaille sur la façon dont on peut amener les participants à créer une certaine perméabilité dans les frontières qui délimitent leurs prérogatives et leur métier. Là aussi, c'est un apprentissage, hein, c'est-à-dire apprendre à travailler avec quelqu'un, apprendre à, pour le dire de manière un petit peu imagée, marcher sur ses plates-bandes sans pour autant qu'il s'en offusque, et réciproquement accepter que quelqu'un vienne un petit peu sur son territoire sans que ça génère de difficultés. Ce point apparaît comme un des facteurs de réussite du dispositif. Et puis troisième et dernière idée forte là ici, c'est celle d'une division du travail pas toujours transparente, hein. C'est-à-dire que finalement ces collègues là sont parfois rattrapés par la difficulté de concilier tout à la fois leur métier au quotidien et les ambitions partagées dans le dispositif point élève. Hein, c'est le témoignage de Sophie, assistante sociale. Je ne le dirai jamais en point élève. Tu ne peux pas perdre la confiance avec la famille si tu dis tout au point élève. Tu les trahis. Après, tu vas ramer pour c'est-à-dire les parents, pour les revoir. Autrement dit, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'autocensure par rapport à un éventuel secret professionnel, puisque tout à l'heure je l'ai dit, hein, ils ont fait le choix de partager les informations et de dire tout ce qui peut être utile au groupe pour pouvoir prendre des décisions. Par contre, là ici, ce qui préoccupe cette collègue, c'est de pouvoir rendre compatible son investissement dans le dispositif collectif tout en assurant la réalisation de son métier le lendemain. Et là, on a des enjeux parfois concurrentiels qui apparaissent, quoi. C'est-à-dire que je prends la main sur, je je prends la main, je suggère, je propose des dispositifs d'accompagnement dans le collectif, non pas parce que la décision apparaît complètement consensuelle, où on a fait l'inventaire de toutes les possibilités qui pourraient exister pour accompagner et remédier aux difficultés que rencontre un élève, mais simplement parce que proposer, forcer un petit peu le choix d'un dispositif dans lequel je suis impliqué, hein, d'un dispositif d'accompagnement dans lequel je suis impliqué en tant qu'assistante sociale, c'est me permettre de garder la main sur ce cas particulier d'élève pour me permettre d'exercer mon travail le lendemain. Donc là aussi, c'est alors je ne le qualifierai pas comme un petit bémol, mais c'est bien l'idée de voir s'opposer deux niveaux, un dans le point élève et un, alors qu'elle qualifie de en sous-marin, c'est-à-dire de choses qui lui appartiennent en propre, c'est-à-dire qu'il y a deux communautés de pratiques qui se rencontrent et qui se superposent, celle du dispositif du point élève et celle de son métier d'assistante sociale en dehors de l'établissement scolaire. Alors cette situation-là, elle nous amène à voir un peu les dispositifs hein, comme étant à la fois, je vais commencer par le bas de la diapositive, hein, un développement collectif relativement pérenne. On est dans un dispositif qui s'institue progressivement, qui a fonctionné pendant une année et demie, deux années, et donc un certain nombre de routines qui se sont mises en place pour permettre l'innovation sur certaines formes de travail. Et on a besoin de cette constance, on a besoin de cette pérennité pour aller dans la recherche d'une certaine efficacité de ces dispositifs. Et en même temps, ces dispositifs-là demandent pour pouvoir durer dans leur efficacité à présenter une certaine souplesse et donc c'est répondre à une organisation qui est relativement éphémère, qui est partiellement improvisée. À titre d'exemple, dans ces discussions qu'il peut y avoir de manière hebdomadaire, ben, le centre de décision change à chaque occurrence. Il n'y a pas de modérateur identifié. Il y a des cas qui sont proposés par plusieurs intervenants. Hein. Rituellement, ça débute par un tour de table où chacun énonce de combien d'élèves il souhaiterait qu'on discute dans le temps de la réunion. Et donc, ce dispositif-là, pour pouvoir être efficace, et peut-être que c'est un enseignement aussi hein, sur un certain nombre de dispositifs, si je viens sur la dernière idée, c'est d'essayer de résister à la dépendance de ces dispositifs. Alors, je rebondis un peu sur la question de la vidéo de tout à l'heure, où effectivement, si c'est une vidéo pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'y passe et les tenants et les aboutissants dans un contexte vidéo, c'est quelque chose qui peut apparaître intéressant. Si c'est pour s'inspirer d'un dispositif et voir comment on pourrait travailler ce dispositif-là pour le rendre compatible avec les circonstances que sont les nôtres dans un autre environnement, c'est aussi une perspective intéressante. Par contre, si massivement dans les établissements scolaires on retrouve le recours à l'article 34 hein, qui confère une certaine autonomie dans la mise en place de dispositifs et que les dispositifs qui sont mis en œuvre sous cet article-là ressemblent beaucoup à des dispositifs institutionnels, c'est pour aussi s'affranchir de cette dépendance aux dispositifs. C'est-à-dire c'est pour ne pas se retrouver enfermé dans un dispositif qui prendrait le pas sur les pratiques professionnelles. Donc l'organisation éphémère que j'évoquais précédemment, c'est une des conditions de durabilité, de pérennité des dispositifs. C'est-à-dire penser des dispositifs qui permettent de s'adapter au fur et à mesure plus que des dispositifs qui prennent le pas. Sinon, ce que énonce Dupriez, hein, on a un épuisement des professionnels parce que les dispositifs sont portés toujours par les mêmes épaules et au bout d'un moment, on s'épuise à ça. L'objectif de ces dispositifs, c'est d'autoriser une certaine souplesse pour permettre un gain d'espace de liberté, c'est-à-dire autoriser des pratiques qui soient un petit peu innovantes, qui sont aux marges de ce que l'on fait habituellement, de ce que l'on peut faire, et on observe parfois dans des établissements scolaires, alors là aussi, hein, ça se dit pas tout de suite, mais des pratiques qui sont aux marges de ce qu'on a le droit de faire, si on est strictement dans le regard de la loi et qui en même temps accompagne, aide, supporte tout à la fois les élèves et les enseignants. Voilà, j'arrêterai là pour qu'on ait encore un petit peu de temps en fin d'après-midi avant de discuter. Merci pour votre attention.